Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'opposition biélorusse en force dans les principales villes du pays, malgré les postures et déclarations martiales de son président et autocrate Alexandre Loukachenko. Précision de Moscou de Claude Brouillot, Moscou qui propose à Minsk une réforme constitutionnelle. Denis Mukwege, gynécologue congolais surnommé l'homme qui répare les femmes menacées de mort après avoir dénoncé des massacres dans l'est de la République démocratique du Congo, réaction du diplomate Pierre Jacquemot. Les dernières heures d'émission de France O, manifestation de soutien et d'indignation à Paris, reportage de Sarah Ders. Enfin, nous prendrons la mesure en fin de journal des enjeux géopolitiques de la finale de la Ligue des champions de football, Bayern de Munich PSG, plus précisément de la victoire d'ores et déjà du soft power qatarien. Les rues de Minsk, noires de monde, des drapeaux blancs et rouges flottent sur la foule qui a envahi les principales artères de la capitale biélorusse pour le deuxième dimanche consécutif. Des dizaines de milliers de manifestants dénoncent la réélection jugée frauduleuse d'Alexandre Loukachenko le 9 août dernier. En direct de Moscou, nous retrouvons Claude Brouillot. Bonsoir Claude.
Bonsoir Mathieu.
Claude, avant d'en venir aux préoccupations du Kremlin, relevons que l'opposition biélorusse, qui a reçu le soutien de ses membres réfugiés en Lituanie, n'a pas tenu cas des menaces d'Alexandre Loukachenko.
Oui, absolument, mais en prenant tout de même quelques précautions, Maria Kolesnikova, la seule du trio de femmes leader des manifestations depuis deux semaines à Minsk à être restée, elle, dans le pays, demandait tout à l'heure aux opposants qui se trouvaient à proximité de la stèle des héros de la Deuxième Guerre mondiale au cœur de la capitale biélorusse de ne pas demeurer face aux forces anti-émeutes qui quadrillent le périmètre. Il faut, disait-elle, éviter les provocations. En plus des hommes en noir casqués et armés présents en nombre, des barbes ont été érigés tout autour de l'esplanade pour empêcher les manifestants d'aller plus loin, ceux-là même qui ont continué et ont décidé de se rapprocher de la résidence d'Alexandre Loukachenko, elle aussi très bien protégée. Il n'en reste pas moins que le rendez-vous de cet après-midi est une nouvelle démonstration réussie de la capacité à mobiliser du Conseil de coordination qui réclame toujours la fin des violences policières et des élections transparentes. Cela veut dire que le discours du président biélorusse, même durci, vous l'avez dit, par des formules récentes telles que « je vais régler le problème », ce discours n'a fait, semble-t-il, Mathieu, que renforcer la détermination de ces dizaines de milliers d'opposants à Minsk, sans compter ceux d'autres grandes villes comme Grodno, par exemple, à la frontière polonaise.
Il y a quelques heures, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare « une réforme constitutionnelle en Biélorussie serait une solution durable à la crise politique du pays ». Claude, comment interpréter cette prise de position de Moscou ?
Écoutez Mathieu, ça ressemble à une stratégie pour gagner du temps, tout simplement. Si l'on considère qu'une réforme constitutionnelle doit s'intégrer dans un calendrier, qu'il est possible alors d'étaler à l'envi, mais on ne voit pas comment le Kremlin va s'y prendre pour décider Loukachenko à engager ne serait-ce que des pourparlers avec l'opposition, qui est en réalité la société civile biélorusse, puisque plus on avance dans le temps, plus le président biélorusse adopte un discours guerrier qui évoque sans arrêt la confrontation avec des ennemis extérieurs, à l'origine, selon lui, des manifestations comme celle d'aujourd'hui, un discours que le Kremlin fait semblant, à mon sens, de relayer, bien conscient surtout que l'immense majorité des Biélorusses est fatiguée par les 26 années du pouvoir autocrate d'Alexandre Loukachenko, en espérant aussi que rien de contagieux n'interviendra à Minsk dans la suite des événements bien difficiles, Mathieu, à prédire ce soir.
Merci à vous, Claude Brouillot, en direct de Moscou. Les Rohingyas, secoués par des violences en Birmanie, disent craindre de voir l'épidémie de coronavirus gagner les camps surpeuplés où ils sont confinés. Une vague de contamination ayant provoqué le confinement de Sidoué, la capitale de cet état de Rakhine. Quelques 130 000 Rohingyas, une minorité musulmane persécutée, vivent dans des camps autour de Sidoué, dans des conditions qualifiées d'apartheid par Amnesty International. Climat tendu en Côte d'Ivoire au lendemain de violences ethniques qui ont fait au moins deux morts dans le sillage de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat que ses adversaires jugent inconstitutionnel. Au moins deux personnes sont mortes à Divo, 200 km au nord-ouest d'Abidjan, dans des affrontements, portant à une dizaine le nombre de morts depuis début août. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, affirme avoir reçu des menaces et vu des proches menacés après avoir dénoncé un récent massacre de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet homme au chevet des femmes violées et violentées a alerté de la sorte. Ce sont les mêmes qui continuent à tuer en RDC. Les contes macabres de Kipupu sont dans la droite ligne des massacres qui frappe la RDC depuis 1996, a écrit sur Twitter le gynécologue. Alicia Miami a joint Pierre Jacquemot, universitaire et diplomate qui connaît parfaitement la région des Grands Lacs, et le docteur Denis Mukwege.
Le docteur Mukwege, à son hôpital en pleine Apenzi, dans le sud Kivu, dans une région marquée par l'insécurité, une insécurité totale depuis en gros 1996. On assiste périodiquement à des exactions commises par des groupes rebelles, par exemple des anciens génocidaires du Rwanda, par des milices qui se sont constituées en groupes d'autodéfense, mais également par l'armée. De cette insécurité qui règne dans cette région, il résulte des actes de violence, des déplacements massifs de population. On compte 5 millions de déplacés au Congo. Et le docteur Mukwege, un peu le porte-parole des victimes de ces violences, et en appelle à la communauté internationale pour mettre en place une cour de justice qui viendrait dénoncer et mettre en cause les auteurs de ces prédations diverses et variées. On ne sait pas quelle pourrait être l'efficacité de ce tribunal. Je pense que dans la démarche de Mukwege est davantage pour alerter l'opinion internationale sur la perpétuation de ces actes de violence. Et on oublie un peu cette situation parce que on s'acclimate de cette violence. Et je pense qu'il est important que des personnalités comme le docteur Mukwege ou d'autres rappellent en permanence l'existence de ces violences et la nécessité d'y mettre fin, qu'on puisse véritablement éradiquer la violence de cette région, parce que c'est proprement insupportable que ça puisse durer depuis pratiquement un quart de siècle.
Voilà, Pierre Jacquemot, universitaire et diplomate, avec Alicia Miami. Vous écoutez le journal de France Culture, il est presque 18h07. Ce soir à minuit, écran noir sur le canal 19 de la TNT, France O n'émettra plus. Une décision motivée par la direction de France Télévisions par les faibles audiences enregistrées. Bonsoir Sarah Ders.
Bonsoir Mathieu.
Sur la place du Palais Royal, à quelques mètres du ministère de la Culture, des dizaines de téléspectateurs, de journalistes d'ultramarins ont manifesté cet après-midi contre cette fin de France O pour dénoncer la fermeture d'une chaîne publique.
Et la mobilisation donc pour sauver France O n'y fera rien, tout comme la promesse de son maintien par le candidat Emmanuel Macron. Place du Palais Royal aujourd'hui à Paris, les manifestants sont unanimes. Ils vont perdre la seule vitrine des Outre-mer et craignent surtout une quasi-invisibilité des contenus ultramarins à la télévision, comme l'explique ce téléspectateur Céléo en colère.
J'ai l'impression que c'est un manque de respect des ultramarins en France en fait. Parce que France O, c'était quand même c'est assez important. Alors peut-être qu'au niveau des chiffres, je ne sais pas, mais moi je sais, par exemple, ma mère, tous les matins, elle se lève de bonne heure et elle regarde son petit journal sur la Martinique. Et si elle a plus ça, ça fait un manque. Et puis on découvre le monde à travers cette chaîne. Ça permet d'avoir des petits reportages, des petits documentaires sur Tahiti, sur Wallis et Futuna. Il y aura moins de représentations des Outre-mer dans le paysage public et en plus ça sera perdu.
Pour garantir durablement la présence des Outre-mer dans l'audiovisuel public, France Télévisions s'est pourtant engagée à respecter ce que l'entreprise appelle le pacte de visibilité, surnommé le pacte d'invisibilité par Kant Lebeau, à l'initiative du collectif Sauvons France O, qui n'y croit pas.
2 millions d'ultramarins en Hexagone, nous payons la redevance. Donc à ce titre-là, on a parfaitement le droit de prétendre à une télé qui nous représente, qui nous ressemble. Est-ce que une autre chaîne de France Télévisions pourrait faire la même chose? Non, on ne le croit pas. Au niveau de nos sportifs, au niveau de nos artistes, qui diffusera un concert de Kassav?
La mobilisation a aussi été politique. Les parlementaires ultramarins, qu'ils soient dans la majorité ou l'opposition, rappellent sans cesse son rôle singulier, le rôle singulier de France O, qu'une simple plateforme numérique née en juin dernier en contrepartie de la fermeture de la chaîne ne pourra remplacer ou contrebalancer.
Merci à vous Sarah Ders. Les têtes d'affiche des gauches en vue de la présidentielle. Avant-hier, la direction d'Europe Écologie Les Verts décidait de donner du temps au temps pour la désignation de son candidat. Eh bien, cet après-midi, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, affirme qu'il prendra sa décision en octobre prochain. Le gouvernement, lui, s'offre un report d'une semaine pour la présentation de son plan de relance économique post-confinement. Le confinement qui aura
pourra réhabiliter le département, encensé chaque fois que possible par Jean Castex. Le Premier ministre, lui-même ancien conseiller départemental, a, à cet égard, annoncé des moyens supplémentaires pour cet échelon dans la prochaine loi de finances. Il est loin le temps où cet échelon était menacé de disparition. Mais dans ce contexte, le docteur en géographie Laurent Chalard propose de faire une soixantaine d'ajustements afin d'adapter la carte aux réalités fonctionnelles actuelles. Anne Fauquemberg.
Pour Laurent Chalard, il faut d'abord en profiter pour corriger les anomalies de l'histoire, supprimer les enclaves comme celle de Valréas dans la Drôme ou revoir le découpage de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle héritée de l'annexion allemande en 1870. Mais plus globalement, le géographe incite à mieux rattacher villes et cantons à leur département d'influence. Mers-les-Bains dans la Somme, qui forme une unité urbaine avec eux et le Tréport en direction de la Seine-Maritime. Ou autre exemple, basculer les banlieues du Gard proche d'Avignon dans le Vaucluse où se situe la ville. Car les agglomérations bi ou même parfois tridépartementales compliquent la vie des habitants, estime le chercheur.
Tout simplement parce que les services de l'État réfléchissent à l'échelle du département, mais aussi en termes de compétences. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez les cars qui sont interurbains. Les cars, c'est une compétence du département. Et parfois, en termes de desserte des cars, c'est compliqué. Parfois, vous avez quand même des départements qui sont intelligents et qui arrivent à s'entendre pour faciliter les choses, mais des fois, c'est pas le cas.
À l'ère de la Covid-19, on imagine aussi mal une partie de l'agglomération masquée, l'autre non. Évidemment, ces propositions sont diversement accueillies dans les territoires, mais le chercheur qui a envoyé ses idées aux élus concernés s'accroche, partant du principe que ces ajustements pourraient amener de la fluidité dans la crise économique à venir.
Anne Fauquemberg a retrouvé sur notre site internet un entretien en longueur avec le chercheur Laurent Chalard. Refermons cette édition avec une lecture géopolitique de la finale de la Ligue des champions de football qui opposera ce soir à partir de 21h à Lisbonne, le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Lecture géopolitique du PSG et de ses propriétaires qatariens, à vrai dire. Bonsoir Jean-Baptiste Guégan.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en géopolitique du sport et spécialiste des pays du Golfe. Jean-Baptiste Guégan, est-ce qu'on peut dire que quel que soit le score final ce soir, le Qatar a gagné et a eu raison d'investir dans le PSG ?
Effectivement, avec la finale de ce soir, on voit enfin ce projet entamé il y a 9 ans arriver à un point où aujourd'hui on respecte ce que le Qatar a fait dans le sport, dans le football. Et plus sûrement, le projet avance, et avec un titre ce soir, et même sans titre, le Qatar aura réussi à imposer sa narration, son storytelling, pour employer un terme adéquat. En termes de visibilité, il aura réussi ce qu'il cherchait en rachetant le PSG, il y a de ça déjà quelques années.
Alors, quelle plus-value attendre ? On parle de soft power du Qatar. Qui pourra en profiter au juste ?
Alors justement, ceux qui vont en profiter, c'est d'abord effectivement le PSG, c'est le foot français. Quelle que soit l'issue de cette finale, une victoire serait encore... plus extraordinaire, mais surtout c'est l'Émirat qui va donc pouvoir travailler sa narration, son storytelling autour de sa réussite. Avec le sport, il cherche à se montrer, à exister et à donner une image d'eux qui est celle de la modernité. C'est les clés finalement du futur pour le Qatar. Le sport est un des outils, le football est l'outil qui a été mis en avant. Et puis après, l'échec médiatique des championnats du monde de 2019 à Doha, les championnats du monde d'athlètes, la Coupe du Monde 2022 qui se profile, cette finale est inattendue, j'ai presque envie de dire, non pas inespérée, mais extraordinaire dans le contexte du Covid. Et donc, tout le monde finalement va en bénéficier de la dynastie Al Thani en passant par l'ensemble des compagnies qatariennes. Il suffit de voir par exemple ce que fait Ooredoo, Qatar Airways autour de la finale.
Mais vous nous dites, Jean-Baptiste Guégan, que cette réussite ici, à Paris, enfin du PSG, peut par exemple faire effacer, mettre en second plan tout un tas d'enjeux difficiles et regrettables d'ailleurs, s'agissant de l'organisation de la Coupe du Monde en 2022.
Bah, effectivement, c'est-à-dire que depuis à peu près 2 ans, lorsqu'on parle du Qatar, on parle des choses négatives. C'est-à-dire, je vous parlais du semi-échec des championnats du monde d'athlètes à Doha en 2019, mais il y a aussi la question des travailleurs étrangers, la surmortalité sur les chantiers, la crise du Golfe. Donc autant d'éléments négatifs qui finalement nuisent à l'image de modernité que veut diffuser le Qatar. Avec cette finale-là, il y a une possibilité de communiquer, surtout s'il y a victoire au bout, pendant de longs mois. Et donc là, on est dans un des objectifs du soft power tel qu'on le définit, c'est-à-dire que vous maîtrisez le calendrier international et vous maîtrisez la narration autour. Et donc derrière, c'est vous qui maîtrisez la séquence et vous racontez ce que vous voulez. Et donc, pour un pays qui va justement préparer l'après, c'est idéal. Et avec une victoire, c'est pas simplement les supporters du PSG, et j'en suis, qui seront ravis, c'est tout un pays, et c'est là où on voit ce qui est devenu le PSG pour le Qatar, c'est-à-dire une deuxième sélection nationale.
Bien, merci à vous. Merci Jean-Baptiste Guégan. Je rappelle que vous êtes enseignant en géopolitique du sport. Bayern de Munich, PSG, c'est à 21h à Lisbonne. Quelques mots de la météo pour fermer cette édition. La météo de demain lundi. Temps nuageux à très nuageux de la Bretagne et des pays de la Loire au Hauts-de-France, avec quelques gouttes possibles au nord de la Seine. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon, à la technique Jean-Guy Lermège.